Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Coucou. Entre 1980 et 1987, 6 jeunes Français, pour la plupart en service militaire, faisant du stop pour se rendre à leur caserne ou rentrer chez eux, se volatilisent dans la même zone, près de Mourmelon, dans le Grand Est. Ces disparitions ne sont pas du tout prises au sérieux par les autorités françaises, qui les classent presque immédiatement comme des fugues ou des désertions. Circuler, y a rien à voir. Jusqu'au jour où, lors d'un simple contrôle de routine, les gendarmes découvrent à l'arrière d'une camionnette un homme ligoté dans un sale état qui supplie les agents de le sortir de là, disant que le conducteur, un certain Pierre Chanal, sous-officier de l'armée, est un pervers qui le torture depuis des heures. Cet homme, Pierre Chanal, personne ne l'a jamais soupçonné. Et pourtant, il est certainement l'un des pires tueurs en série que la France ait connu à ce jour, puisqu'on l'accuse et le soupçonne de 17 meurtres au total. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, Max Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler tueur en série français et plus précisément de Pierre Chanal, dit le tueur de Mourmelon. Je vous le dis tout de suite, cette affaire elle va vous mettre les nerfs quand vous allez voir que la justice française a fait preuve d'une incompétence inimaginable pour classer toutes les disparitions que je vais vous présenter une à une dans cet HVF comme des fugues et balancer les dossiers à la poubelle. Mais heureusement, dans la justice française, il y avait un gendarme, un certain Jean-Marie Tarbès, dont j'ai utilisé le livre pour écrire cet HVF, qui était gendarme à la section de recherche de Reims, qui avait été mis sur l'affaire et qui, lui, a compris tout de suite que, dans les alentours de Mourmelon, tous ces jeunes hommes qui disparaissaient, c'était pas parce que c'était des fugues, etc. Il y a un tueur en série dans le coin, il l'a compris, il a enquêté, il en a fait un livre, et c'est pour ça que cet HVF est aujourd'hui autant détaillé. Petite parenthèse, je vous annonce également que je serai au Quai du Polar de Lyon pendant les 3 jours du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril. Je vous mets tout mon planning sur le commentaire épinglé. Voilà, c'est un événement gratuit, donc n'hésitez pas à venir me voir. Installez-vous et on est parti. Le combi Volkswagen de l'horreur. Notre histoire prend place aujourd'hui à Mourmelon, ou en tout cas dans ses environs, vous allez voir, on est en France, dans le Grand Est, département de la Marne. Mourmelon, c'est tout petit, il y a 5000 habitants, mais c'est plutôt bien desservi. Il y a des restaurants, un vétérinaire, une pharmacie, un médecin, des magasins de vêtements, des beaux militaires qui se baladent régulièrement en ville, les pectoraux saillants, et que l'on peut croiser à la brasserie du coin. Enfin, tout ça pour vous dire que Mourmelon, c'est surtout une énorme base militaire qui n'est pas flouté sur Google Maps, mais je vais éviter de zoomer sur les bâtiments parce que je pense très honnêtement que l'armée a juste oublié de demander à Google de flouter tout ça, parce que je vous assure qu'on voit absolument tout, que ce soit les baraquements, les zones d'entraînement, les véhicules. Donc on va rester à distance acceptable si je veux pas avoir une visite à 6h du matin et une vidéo supprimée. Dans les années 80, il y a encore le service militaire en France, donc beaucoup de jeunes, dans la vingtaine, sont envoyés à la base de Mourmelon pour les préparer en cas de conflit et avoir des hommes prêts au combat si 2-3 dirigeants décident de jouer à la guerre bien au chaud dans leur bureau. Sauf que depuis 7 ans, entre 1980 et 1987, il y a un malaise qui s'est installé sur la base de Mourmelon. On raconte que l'endroit est maudit, il est même surnommé le Triangle de Mourmelon, puisque des jeunes venus faire leur service militaire s'y volatilisent sans laisser de traces. Rien, aucune lettre disant qu'ils partent, même leurs familles n'ont plus de nouvelles. Mais l'armée tente de rassurer, pas de panique, c'est juste des déserteurs, ils reviendront dans quelques années. Hein. Et pourtant, rien qu'au début des années 80, ce sont 5 jeunes qui se volatilisent. Patrick Dubois, Serge Avette, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Olivier Donner, dont on parlera un à un en détail pour comprendre et connaître les circonstances de leur disparition. Pourtant, des corps, on en a dès le début, en tout cas... Un seul pour l'instant, celui d'Olivier Donner, porté disparu depuis le 30 septembre 1982, après une permission de 3 jours pendant laquelle il voulait rejoindre Troyes en faisant de l'autostop. Son corps est découvert le 30 octobre, un mois plus tard, toujours habillé avec les vêtements qu'il portait lors de sa disparition. Le corps d'Olivier est en décomposition squelettique, dira le médecin légiste. Il est retrouvé au sud de Mailly-le-Camp, dans un bosquet bordant la route nationale 77 en direction de Troyes. Ce qui veut dire qu'Olivier a bien été pris en autostop. Malheureusement, l'état de son corps ne permet pas de savoir ce que le jeune homme a pu vivre. Mais là, je vais un peu vite, je vous parle de la découverte d'un corps, de toutes ces disparitions, mais à l'époque, ça ne se passe absolument pas comme ça. Toute la France découvre l'affaire des disparus de Mourmelon avec un événement bien précis lorsqu'un autostoppeur hongrois, Palaz Falvé, est découvert par les gendarmes dans le coin de Mourmelon, les fesses à l'air, dans un combi Volkswagen et qu'il dit que le conducteur le torture depuis des heures. Palaz Falvé, il a 20 ans au moment de son enlèvement et se rend dans le sud de la France en faisant de l'autostop. Il réussit à traverser Paris, évite les craquettes et les rats, puis est déposé à Châlons, autre petite ville à 20 minutes de Mourmelon. Il se positionne alors stratégiquement près du poste de péage, là où les automobilistes sont obligés de s'arrêter. Il est 22h ce 8 août 1988, lorsqu'une camionnette verte, ou plutôt un combi Volkswagen, s'arrête à sa hauteur. Enfin, Palaz attend ici depuis 3h, il a cru qu'il allait passer toute la nuit sur le péage. Le conducteur est pas très bavard, il répond juste « oui » de la tête lorsque Palaz lui demande s'il va à Lyon. Bon, au moins dans la camionnette, il y a de la place. Palaz monte et l'ambiance est glaciale à l'intérieur du véhicule. Le conducteur ne parle pas beaucoup, Palaz parle pas bien français, il vient de Hongrie, donc il peut pas trop engager la discussion tant que le conducteur ne l'aide pas ou ne lui pose pas des questions basiques. Après plusieurs dizaines de minutes de route qui semblent interminables, Palaz remarque que le conducteur semble perdu. Il quitte l'autoroute, s'engage dans un petit chemin désert, toujours dans la nuit noire, et sort une carte. À la base, Palaz il s'est mis sur le péage pour que ce soit tout droit et arriver le plus vite jusque Lyon. Pas pour se retrouver paumé dans la pampa française avec les vaches. Mais c'est pas grave, il tend un stylo au conducteur pour qu'il puisse tracer sa route. Alors le type fait son schmilblick, semble râler un peu, va à l'arrière de la camionnette. Palaz ne bouge pas. Il entend alors l'homme trifouiller, chercher quelque chose. Palaz ne remarque pas une seule seconde que l'inconnu vient d'attraper une large sangle en cuir et qu'il s'apprête à lui passer autour du cou. Palaz raconte.
À 3 ou 4 reprises, il est passé derrière moi dans la camionnette pour chercher n'importe quoi. Une carte, une lampe, une poche, que sais-je. Puis soudain, alors qu'il se trouvait derrière moi, il a passé rapidement autour de mon cou une sangle kaki et a serré violemment. Ma tête était tirée en arrière et avec une autre sangle, il m'a attaché les pieds. Je ne pouvais pas du tout me défendre car j'étais étranglé. Il m'a ensuite attaché les mains dans le dos, toujours avec le même type de sangle. Ensuite, il m'a basculé de force sur le lit situé à l'arrière du véhicule. Il était comme fou, excité, les yeux exorbités. J'avais vraiment très peur de me faire tuer. Il a ensuite commencé par me toucher sur tout le corps et je dois dire que j'ai été un peu soulagé de voir qu'il ne voulait pas me tuer. Il m'a baissé mon short. Quand il a vu que cela ne me faisait pas d'effet, il m'a laissé et m'a mis des chaînes autour du cou et des poignets. Je ne me souviens plus si j'en avais aux pieds, j'étais vraiment trop choqué. Il m'a laissé ainsi pendant au moins 1 heure. Il allait et venait dans la camionnette. J'étais terrorisé.
Voyant que Palaz est plus terrorisé qu'excité par la situation, le conducteur sort alors divers objets pour adultes et se verse une tonne de lubrifiant sur les mains. Toute la nuit, Palaz va vivre un enfer, abusé sexuellement. Pour survivre, il obéit aux ordres du pervers alors qu'il est enchaîné de partout. Plusieurs scènes seront filmées à l'intérieur de cette camionnette, puisque l'homme est équipé d'une petite caméra qui, vous le verrez tout au long de cet HVF, a dû enregistrer bien des horreurs.
Il était vraiment capable du pire, il était vraiment fou, très nerveux, à la limite de l'hystérie. Il lançait des interjections violentes et s'échauffait très rapidement. Je vous assure, j'étais réellement effrayé. La chaîne qui m'en serrait le cou était tellement serré que je n'osais bouger de peur de m'étrangler. À l'arrivée de vos collègues, il m'a mis une couverture sur moi afin de dissimuler mes liens.
Il est 17h45 ce 9 août lorsque des gendarmes remarquent sur un chemin sans issue près de Bussière le combi Volkswagen de couleur verte. Il décide alors de procéder à un contrôle. On n'est pas loin du tout nouveau chantier qui va prochainement voir arriver le TGV. Faudrait pas qu'un malandrin ait l'idée de voler du matériel. En plus, la camionnette est verte comme celle de ces salauds des colos qui sont contre tout. J'invente rien, c'est dans le bouquin, vous sentez pas offensé. À leur approche, la camionnette démarre mais s'arrête rapidement, le conducteur voyant que de toute façon le chemin est un cul-de-sac. Le contrôle débute, le conducteur dit être un certain Pierre Chanal, militaire gradé qui a servi à la caserne de Mourmelon. Il donne maintenant des cours d'équitation militaire. À ce moment précis, il se passe quelque chose. Notre point de bascule est là. Le gendarme, le sous-officier Genet, a entendu parler des disparus de Mourmelon. Et il sait pas pourquoi, mais ça le tilte. On a là une camionnette paumée avec un militaire de Mourmelon qui, d'ailleurs, d'un coup, en voyant la tête du gendarme Genet, explique avoir un autostoppeur étranger à l'arrière du véhicule qui est en train de se reposer. Il dort, donc c'est pour ça qu'il est venu se garer là. Sauf qu'en regardant à l'intérieur de la camionnette, le collègue du gendarme Genet, le gendarme Panneau, remarque tout de suite que l'étranger ne semble pas du tout dormir. Il est à peine caché sous une couverture entravée par des chaînes et des liens. Le type semble pleurer, il essaie de hurler mais rien ne sort de sa bouche. L'arrière de la camionnette est ouverte, Pierre Chanal est prié de sortir. Palaz, en voyant les gendarmes français, balbutine quelques mots. Il dit qu'il est en danger, qu'il needs the help. Bon alors, nos gendarmes, ils sont pas super bien calés en anglais, mais en voyant l'état de Palaz, ils comprennent bien que non, contrairement à ce que leur dit Pierre Chanal, le type a pas l'air du tout d'accord et consentant pour être ici. Pierre Chanal est arrêté. De son côté, Palaz raconte le calvaire qu'il a vécu à l'intérieur du combi Volkswagen. À ce moment-là, les enquêteurs de Mourmelon et tous les hommes ayant travaillé sur les disparitions de jeunes hommes les 10 dernières années comprennent que l'histoire judiciaire est en train de s'écrire et que toutes ces disparitions n'étaient finalement peut-être pas de simples désertions. À l'intérieur du combi Volkswagen de Pierre Chanal est retrouvée sa caméra, des enregistrements, des photos prises dans les douches de la caserne militaire de Mourmelon à l'insu des jeunes hommes. Mais surtout, et c'est le point le plus important de notre affaire, de l'ADN. Des cheveux, des poils appartenant à Patrice Denis, Patrick Gache, Pascal Sergent. Tous disparus dans ce que l'on appelle aujourd'hui le triangle maudit de Mourmelon. Voici leur histoire. Les disparus de Mourmelon. Malgré le livre de Jean-Marie Tarbès sur l'affaire, cet HVF a été très compliqué à écrire parce que vous allez voir que vu que Pierre Chanal a un profil militaire très carré, très sérieux, il est très difficile de réussir à le faire parler, mais heureusement, si cet HVF existe, c'est parce qu'on a quand même énormément de détails, que ce soit sur les faits, son profil psychologique et bien évidemment son enfance dont on parlera après. L'affaire des disparus de Mourmelon commence avec la disparition de Patrick Dubois. Enfin, commence, c'est un grand mot, en tout cas c'est cette disparition qui sera prise des années plus tard comme le point de départ. Mais à l'époque, vous allez le voir, tout le monde s'en fout de Patrick Dubois. Patrick Dubois, il a 20 ans au moment où il est cordialement invité à venir faire son service militaire. Il est incorporé le 1er décembre 1979 au 4e régiment de dragons de Mourmelon. Et cette première disparition est très importante à analyser puisque Patrick, avant de disparaître, va avoir la chance de rentrer chez lui. Il obtient une permission le 18 décembre qui lui permet de passer Noël et le Nouvel An en famille. À ce stade, ça fait donc 17 jours qu'il est à l'armée et tout de suite sa mère Yvonne et son père Raymond le diront plus tard dans la presse, il semble avoir vécu une expérience traumatisante. Je cite...
Il était traumatisé, il savait sans doute quelque chose qu'il n'a pas voulu nous dire. Il a eu tort, car il ne serait pas reparti.
Le 1er janvier, Patrick Dubois repart au train direction la base de Mourmelon, puis se volatilise. Le samedi 5 janvier, l'armée que l'on surnomme toujours aujourd'hui la Grande Muette ne dit rien. Une rapide procédure de désertion est ouverte, et c'est tout. Ses parents ne sont même pas prévenus, les gendarmes ne rendent pas visite aux Dubois. Tout le monde s'en fout. Patrick, c'est un déserteur, c'est tout. Ses parents apprendront sa disparition le lundi 7 lorsqu'ils se permettront d'appeler la base étant sans nouvelles de leur fils depuis plusieurs jours. Malheureusement, concernant Patrick, on ne sait pas grand-chose. Rien n'a été fouillé de son côté. Il est un oublié de la justice, une vie dont tout le monde s'est foutu puisqu'au moment où Pierre Chanal est arrêté en 1988, on est 8 ans après les faits et des milliers de militaires sont passés par la base de Mourmelon. Plus personne ne se souvient de Patrick. Il n'est pas revenu après sa permission. C'est tout. Et les disparitions près de Mourmelon vont s'enchaîner. Je suis obligé de passer rapidement dessus pour vous faire comprendre à quel point personne n'en a rien à faire de ces jeunes hommes qui disparaissent jusqu'au moment où on découvre un premier corps. Serge Havette, par exemple, 20 ans au moment de sa disparition. Il lui reste quelques semaines de service à faire, sa petite amie est enceinte d'une petite fille. Le vendredi 20 avril 1981, il part en autostop pour rentrer chez lui à Tinqueux, dans le 51. Avant de partir, il appelle sa mère, il a hâte de retrouver sa famille, d'embrasser sa future femme, qui doit d'ailleurs prochainement accoucher, elle arrive bientôt à terme. Serge n'arrivera jamais à destination et ne connaîtra jamais sa petite fille. Malgré le fait qu'il n'ait aucun problème dans sa vie, qu'il allait finir son service militaire dans quelques semaines à peine et qu'il allait être papa, voilà, sa future femme est sur le point d'accoucher, l'armée fait une rapide enquête, le classe comme déserteur. Merci, au revoir. Suivent la même année Manuel Caravallo le 7 août, Pascal Sergent le 20 août, avant d'arriver à Olivier Donner le 1er octobre 1982, celui dont on retrouvera le corps et celui qui va enfin déclencher l'affaire des disparus de Mourmelon. Vous l'avez compris, tous ont été victimes de la folie et de la perversité de Pierre Chanal, qui depuis 2 ans maintenant a fait du camp de Mourmelon et ses alentours un véritable terrain de chasse. Son mode opératoire est simple, il erre sur les routes au bord de sa camionnette Volkswagen aménagée, à la recherche de jeunes militaires faisant du stop. Est-ce que ses premiers meurtres étaient prémédités? Est-ce qu'il avait préparé des objets dans sa camionnette pour maîtriser ces jeunes? Sans aucun doute, puisque dès le début, les meurtres sont propres. On ne retrouve quasiment aucun corps. Personne n'entend de cris en pleine campagne. Tout est silencieux. Pour essayer de comprendre le mode opératoire de Pierre Chanal, on va prendre pour exemple une victime, Olivier Donner. Pourquoi lui? Parce qu'on retrouve son corps à peu près... vraiment à peu près en bon état, vous allez comprendre. En tout cas, on sait quels sévices il a pu subir. Et pourquoi lui précisément une fois de plus? Parce que je vais pas inventer des sévices sur des garçons qu'on n'a pas retrouvés. Ce serait un petit peu glauque. Olivier Donner, il est au début de sa vingtaine lorsqu'il est appelé pour son service militaire. Aucun incident n'est signalé pendant son service, tout se passe bien, c'est un gars sérieux qui fait le taf. On sait qu'il a une permission de 3 jours à partir du jeudi 30 septembre 1982 dans l'après-midi. Il doit donc revenir au camp au plus tard le lundi matin, pas besoin de revenir le dimanche soir. Il se met alors sur la route nationale près de Mourmelon, en direction de Troyes. C'est un combi Volkswagen qui s'arrête à sa hauteur. À l'intérieur, Pierre Chanal jubile. Personne aux alentours, aucune voiture ne passe à ce moment-là. Olivier ne se méfie pas, Pierre Chanal, il le connaît bien, il est instructeur dans le régiment des dragons, là où Olivier a été affecté, c'est son supérieur. Olivier monte, Pierre suit son mode opératoire, il fait semblant de se perdre avec sa camionnette et va à l'arrière pour chercher une corde. Tout va très vite puisque même si ses victimes sont des jeunes militaires, à partir du moment où Pierre Chanal leur passe la ceinture autour du cou, c'est terminé. Enfin je veux dire, quand vous étranglez quelqu'un, je sais pas moi, avec une ceinture par exemple, que vous arrivez par derrière et que vous serrez un coup sec, la victime va se débattre un petit peu mais rapidement le cerveau manque d'oxygène et c'est terminé, la personne n'a plus de force, elle peut plus rien faire. Je sais tout ça parce que c'est mon travail. Pierre profite de ce laps de temps tant qu'Olivier est dans les vapes pour lui entraver les mains. Les heures qui suivent l'enlèvement sont un calvaire pour chacune des victimes de Pierre Chanal qui connaît parfaitement la région et sait où se garer pour ne pas être dérangé. Il abuse d'Olivier à l'intérieur même de sa camionnette, sort divers objets et pendant des heures abuse de ses victimes en fonction des fantasmes qui lui passent par la tête à ce moment-là. Olivier ne peut rien faire, les portes sont verrouillées, Pierre est plus fort que lui et il a réussi en quelques heures seulement à le briser complètement. Pierre filme et enregistre ses actes, personne ne se doute de l'horreur qui est en train de se jouer. Là, en plein milieu d'une forêt de mourmelons, Pierre Chanal frappe, bave, il se déchaîne complètement. Sa méthode de mise à mort préférée, c'est la corde de piano qu'il maîtrise bien après toutes ses années d'entraînement à l'armée. Il se place derrière sa victime, serre un coup sec, l'emmène au sol avec lui et pendant plusieurs minutes ne bouge plus jusqu'à ce que les spasmes musculaires s'arrêtent. Et vous allez peut-être me dire, ok, mais le corps il en fait quoi ? Parce que les corps des premiers disparus, on les a toujours pas retrouvés. Et pour faire disparaître quelqu'un, il suffit pas juste de le balancer en forêt et d'attendre que la nature fasse son travail. Dans les forêts de Mourmelons, il y a des militaires, il y a des chasseurs, il y a des randonneurs, il y a des sangliers, il y a des animaux, bref. Un corps, même mort malheureusement, ça apporte un petit peu de vie tout autour et surtout ça pue. Et bien là encore, Pierre Chanal a de la chance puisque dans la région de Mourmelons, on compte plus de 2000 puits. Et Pierre, ce coin, il le connaît bien puisqu'il a passé 9 ans de sa carrière militaire ici. Alors, vu que l'on retrouve peu de corps par rapport au nombre de victimes, et d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de toutes les disparitions, vous allez voir, on peut supposer 3 choses. Soit Pierre jette toutes ses victimes dans les puits abandonnés du coin, et les plus pointilleux d'entre vous sont déjà en train d'écrire en commentaire. Mais pourquoi on n'a pas fouillé les puits abandonnés ? Eh bah, une fois de plus, c'est une question de moyens. Ça paraît choquant parce qu'on parle de vie humaine, mais que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui encore, la justice ne veut pas dépenser des milliers d'euros pour payer des gens pendant plusieurs années pour répertorier tous les puits et les fouiller. C'est juste une question d'argent, c'est tout. Et à ce jour, on a certainement encore des victimes de Pierre Chanal qui gisent dans les puits abandonnés de Mourmelons. Mais Pierre, dans son combi Volkswagen, au moment où il est arrêté avec Palaz, on retrouve une pelle pliante. Ce qui peut aussi nous faire dire que, parfois, il enterre simplement les corps dans un endroit paumé et laisse faire la nature. Pour en revenir à Olivier, après lui avoir fait le coup de la corde de piano, Pierre ne va pas s'embêter avec lui. Il décide simplement de le planquer sous un buisson et de repartir. Il ne reviendra pas chercher le corps pour le cacher, il le laisse là pendant un mois. Le 30 octobre, son corps est découvert par un chasseur. Olivier est méconnaissable, seules les parties de son corps qui sont encore vêtues, le torse et les jambes ont été protégées. Le reste, la tête et les membres ont été attaqués par les animaux. C'est à ce moment précis que l'armée est bien obligée d'avouer que oui, effectivement, Olivier n'a pas déserté. Mais malheureusement, une fois de plus, Olivier, c'est un militaire, donc l'affaire n'est pas du tout médiatisée et les disparitions s'arrêtent pendant 3 ans.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Pendant 3 ans, officiellement, Pierre Chanal ne tue plus. Les jeunes militaires sont sur les nerfs, évitent de faire du stop seul, préfèrent prendre les lignes de bus ou partir ensemble sur les routes. Pierre se contente alors de nourrir ses fantasmes grâce à ses cassettes vidéo et ses enregistrements qu'il a pris avec ses 5 premières victimes. Jusqu'au jour où Patrice Denis, 20 ans, qui se rend jusque Mourmelon en autostop, se volatilise. Et là, l'armée est un peu embêtée puisque l'affaire, elle est civile et non militaire. Patrice, il n'a rien à voir avec l'armée, il se rend le vendredi 23 août 1985 au camp de Mourmelon pour participer à une campagne de lancement de fusées expérimentales organisée par l'Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, dont il est membre. Donc, il peut pas être classé comme déserteur et sa disparition inquiète plus que tous les autorités qui surnomment l'endroit le triangle de Mourmelon. Tout le monde comprend enfin qu'un tueur en série erre dans les environs. Les médias s'emparent de l'affaire. Cette fois, personne n'a peur de l'armée et de l'autorité. Tous parlent de la disparition de Patrice Denis. Tous font allusion aux autres disparus. Cet article, par exemple, dit:
du côté de l'association dont Patrice fait partie, on souligne dans un communiqué que 3 autres disparitions survenues dans des circonstances analogues ont été signalées depuis 1980 dans la région. Au camp de Mourmelon, on précise que 2 militaires ont disparu en 1983 sans toutefois pouvoir confirmer une troisième disparition.
Un hélicoptère est déployé, on sait que Patrice n'a pas pu faire de fugue, il est parti avec peu d'argent, n'a retiré aucune somme de son compte en banque et surtout souffre de problèmes rénaux qui l'obligent à avoir une piqûre chaque jour. Les parents de Patrice contactent le compteur de l'époque, Pierre Belmar, pour médiatiser son affaire. Ils envoient un dossier à Interpol. Malheureusement, Patrice est introuvable. Aucune trace de lui ne sera jamais retrouvée. À cette période, Pierre Chanal se met de nouveau en pause. Les enregistrements, les photos, les souvenirs lui suffisent à ne plus repasser à l'acte. Surtout que de toute façon, il sait que désormais la zone de Mourmelon grouille de flics qui enquêtent sur la disparition de Patrice. Malheureusement, même si la disparition de Patrice donne un coup de boost à l'affaire, 2 ans plus tard, lorsque Patrick Gache, 19 ans, disparaît le 30 avril 1987, lors d'une permission après avoir passé plusieurs semaines au camp de Mourmelon, eh bien, tout le monde s'en fout, puisque son malheur, comme les autres avant lui, c'est d'être militaire. Personne n'en parle, personne n'ose aller déranger l'armée pour parler de Patrick, qui a très vite été classé comme un déserteur. Et d'ailleurs, sa famille ne va avoir de nouvelles de personne avant 6 semaines. 6 semaines après sa disparition, l'armée va appeler la famille de Patrick Gache pour lui dire « Oui, bonjour madame, bon bah votre fils a déserté, merci, au revoir. » Et le plus choquant dans cette disparition, c'est que j'ai pu lire des articles de journaux de l'époque qui parlaient justement de Patrick Gache, voilà, vraiment au niveau régional autour de Mourmelon, et les gens interrogés sur cette disparition le disent franchement: la disparition de Patrick, on s'en fout, c'est pas un gars du pays, il venait juste faire son service militaire, et puis si l'armée l'a classé comme déserteur, c'est sûrement qu'il s'est barré, hein, et puis c'est tout. Alain Gache, le père, dira:
ce qui nous a paru tout de suite anormal, c'est d'être prévenu par téléphone le 16 juin, soit 6 semaines après sa disparition. Ce délai interdisant de fait toute démarche ou recherche sérieuse. De plus, après notre demande insistante de documents officiels écrits, la gendarmerie a confirmé le constat de désertion par un texte non daté. En fait, dès le départ, l'armée et la gendarmerie avaient visiblement décidé qu'il ne pouvait s'agir que d'une désertion, excluant toute recherche réelle immédiate, alors que tous savaient que depuis le 4 janvier 1980, 11 disparitions, dont 8 militaires, avaient eu lieu dans le même rayon géographique.
Pire, dites-vous bien qu'après l'arrestation de Pierre Chanal, l'armée, la gendarmerie, les enquêteurs vont oser fanfaronner en disant « ça y est, vous avez vu, on a super bien enquêté, on a réussi à arrêter le tueur de Mourmelon », alors que toute cette affaire repose sur du hasard. Si Pierre Chanal n'avait pas été contrôlé ce jour-là, alors qu'il était avec son combi Volkswagen au milieu de nulle part avec Palaz à l'arrière, jamais l'affaire des disparus de Mourmelon ne serait sortie dans les médias, puisqu'il est dit, page 43 dans le livre de Jean-Marie Tarbès, je cite:
le ministre de la Défense, François Giraud, prononce ces paroles historiques. « Le disparu de Mourmelon, c'est une blague ridicule. Nous n'avons rien à répondre, d'autant que les rumeurs de toutes sortes nous prennent l'essentiel de notre temps. »
Et pour vous dire à quel point les disparitions à l'époque n'intéressent pas du tout les autorités françaises, on peut prendre en exemple le livre justement de Jean-Marie Tarbès, qui, pendant les 58 premières pages, parle uniquement des disparitions, voilà les petites enquêtes qui sont faites ici et là, et ensuite, tout le reste du livre, c'est l'après-arrestation de Pierre Chanal. C'est-à-dire qu'avant l'arrestation de Pierre Chanal, il ne se passe rien, à peine quelques pages, voilà, dans un dossier. On s'en fout complètement. Si Pierre Chanal n'avait pas été arrêté par hasard, jamais ces pages n'auraient existé.
Et Pierre Chanal le sait bien que personne n'enquête, que tout le monde s'en fout de ces gamins d'une vingtaine d'années qui font leur service militaire et qui sont jugés bons à rien par l'administration qui les classe comme déserteurs. 4 mois après le meurtre de Patrick Gash, il s'attaque à Trevor O'Keefe, un jeune Irlandais qui remonte vers l'Angleterre en autostop. Il est parti de chez lui à l'âge de 18 ans, un peu sur un coup de tête, pour parcourir la France de haut en bas, puis de bas en haut en autostop. Trevor, c'est un petit gars marrant que sa mère surprotège un peu, et il a d'ailleurs décidé de partir pour qu'elle voie que son petit garçon est devenu un homme capable de traverser un pays tout seul. On sait que Trevor croise la route de Pierre Chanal, puisque malgré que son corps soit découvert dans un bois de la commune d'Alincourt, dans l'Aisne, à 1h23 de Mourmelon, eh bien, son corps porte des traces de strangulation par corde de piano. Corde qui sera retrouvée dans le combi Volkswagen de Pierre Chanal, qui, en se débarrassant du corps de Trevor dans un bois à l'extérieur de Mourmelon, a sûrement voulu brouiller les pistes. Mais il fait plusieurs erreurs qui lui seront fatales dans ce meurtre précisément, puisqu'il utilise une pelle militaire américaine dont les traces seront prises en photo lors de la découverte du corps, et en se débarrassant du corps si loin de Mourmelon, Pierre enregistre beaucoup de kilomètres sur son véhicule, et il ne saura pas les justifier devant les enquêteurs. Et puis, vu qu'il ne nettoie jamais sa couchette de camping-car, on retrouvera également des poils et cheveux appartenant à Trevor. Sauf qu'en s'attaquant une nouvelle fois à un jeune homme non militaire, Pierre Chanal remet de nouveau la lumière sur cette espèce de triangle de Mourmelon, et en plus de ça, la victime est irlandaise, donc la famille va faire du bruit pour de nouveau médiatiser l'enquête. Vous connaissez la chanson, on fait une petite enquête, on trouve rien. Puis, en août 1988, l'année d'après, Pierre Chanal est arrêté par hasard avec, à l'arrière de son combi Volkswagen, Palaz. Mais avant de passer à la phase judiciaire pure, qui va d'ailleurs bien vous faire péter un plomb si déjà cette première partie d'HVF vous a énervé, puisque vous allez voir que la justice va bien prendre son temps. Même un peu trop, qui est vraiment Pierre Chanal? Je veux dire, comment est-ce qu'un homme comme lui, très carré, très militaire, qui a fait quand même, une plutôt belle carrière dans l'armée, on n'a rien à lui reprocher, a pu devenir un tel pervers et se transformer en tueur en série au volant de son combi Volkswagen? Est-ce qu'on retrouve dans son enfance des éléments qui auraient pu le pervertir? Qui est Pierre Chanal? Pierre Chanal, né le 18 novembre 1946 dans une famille ravagée par l'alcool. On en a vu des familles dysfonctionnelles dans les HVF, mais là vous allez voir que c'est vraiment le haut du panier. Pierre, il est le 5e d'une famille de 16 enfants qui vit à Boutéon dans le 42. Les Chanal, ils ont une vie misérable, principalement à cause de leur père, un cas social alcoolique qui bat sa femme et ses enfants. Tous vivent dans une ferme qui est louée au nom du père, incapable de payer le loyer, bon qu'à se bourrer au PMU du coin dans lequel il a une dette colossale qu'il rembourse peu à peu grâce aux allocations. Dès son enfance, Pierre voue une haine profonde envers son père qui instaure un climat de terreur sur la famille. Et personne ne leur vient en aide. La ferme louée par les Chanal est paumée au milieu de nulle part. Quand le père Chanal rentre le soir du PMU, c'est l'enfer qui s'abat sur la bâtisse. Alors que la nuit tombe, les meubles se mettent à voler, mais là on n'est pas dans Harry Potter, la mère de Pierre prend des coups malheureusement bien réels. Les enfants sont balancés. La plupart d'ailleurs préfèrent s'enfuir des jours entiers pour vivre dehors ou dans des bâtiments abandonnés plutôt que de subir les crises de leur père qui hurle toute la nuit, les empêchant de se reposer. Concernant sa mère, Pierre en parle avec affection. Il comprend qu'elle a été obligée de faire beaucoup d'enfants, qu'elle a eu un mari violent et qu'elle a fait du mieux que possible pour éduquer ses 16 enfants. Pierre dira plus tard conserver des souvenirs de la sexualité de ses parents qui dormaient dans une chambre séparée seulement par une fine cloison. Il dit
« On n'entendait pas, comme dans les films, des soupirs, etc. À mon avis, c'était pas un acte amoureux, ni d'un côté, ni de l'autre. Le lit grinçait. Je crois que ma mère l'acceptait pour avoir la paix. Si elle avait pu refuser, elle l'aurait fait pour que tout le monde ait la paix. » Elle se donnait. Le soir, lorsque mon père rentrait, il était ivre, les enfants allaient se coucher, et toute la nuit durant, entendaient les disputes du couple. Les enfants vivaient dans des conditions déplorables, tant matérielles que psychologiques. Je dormais dans les escaliers, il n'y avait qu'une chambre pour tous les enfants, et certains dormaient dans le local à grains pour les poules.
Enfant, Pierre rêve d'être pilote. Malheureusement, au vu de la situation familiale, il est forcé de quitter l'école pour subvenir lui-même à ses besoins. Il travaille vers l'âge de 15 ans à l'usine et raconte
« Lorsque je travaillais à l'usine à 5 heures du matin, j'avais de la peine à me lever du fait d'un manque de sommeil lié aux violences verbales de mon père. » Il m'arrivait alors de passer 4 ou 5 nuits dehors. J'avais peur de retourner à l'usine, peur de rentrer chez moi. J'étais déboussolé. Il insultait ma mère toute la nuit jusqu'à ce qu'il s'endorme sur la table avec son alcool.
Voyant que la vie civile n'est absolument pas pour lui du fait de sa situation familiale, Pierre Chanal décide de s'engager dans l'armée en 1965 à l'âge de 18 ans. Il y fera absolument toute sa carrière jusqu'à la fin de cette affaire. L'armée lui sauve la vie, le place dans un environnement propre avec des règles strictes. C'est des trucs tout bêtes pour la majorité d'entre nous, mais à l'armée, Pierre découvre la douche à l'eau chaude, régulière, le lit propre, dans des draps qui sentent bon, la nuit il peut dormir sans être réveillé par son père alcoolique qui retourne la baraque. Il réussit grâce à l'armée à fuir son environnement familial et il devient un soldat exemplaire. Bon, il arrive malheureusement pas à devenir parachutiste dans l'armée comme il l'aurait voulu, donc il en fait son hobby. Voilà, Pierre Chanal, pendant son temps libre, vole, fait des sauts en parachute, 700 au total. Pierre Chanal est dans un premier temps affecté au camp de Val d'Aon. Il devient chef de peloton et instructeur de tir. Un seul incident est signalé le concernant en ses 9 ans à Valadon. C'est un exercice de tir que Pierre Chanal avait organisé avec des balles réelles. Bon alors heureusement, personne n'a été tué, pas de panique. Muté à l'âge de 27 ans à la caserne de Mourmelon, Pierre devient adjudant d'escadron au camp de Mourmelon dans le régiment des Dragons. Il y restera jusqu'en 1986 avant d'être muté dans un centre équestre pour former les militaires à la pratique du cheval. Sur le plan sexuel, Pierre Chanal est un peu gêné d'en parler, mais c'est quand même intéressant de se plonger là-dedans puisque on le voit avec ses victimes que sa principale motivation, c'est clairement ça. Je le répète, on tue pour plusieurs raisons, mais les raisons principales, c'est l'argent et le cul. Voilà, c'est cru, mais c'est comme ça. Eh bien, on sait qu'à l'âge de 16 ans, il a une petite copine sans avoir de rapport, mais voilà, il s'aime, c'est son premier amour. Sa sexualité se développe surtout à l'armée. À 19 ans par exemple, il couche avec une fille lors d'une soirée bien arrosée. Et Pierre, il se décrit comme très timide, il n'arrive à approcher les filles que lorsqu'il est complètement torché. Sa seconde relation, il l'a à 22 ans lorsqu'il sort avec des copains. Tous rencontrent des filles et couchent ensemble dans la même pièce. Et puis à partir de 1977, alors qu'il a 31 ans, c'est la grande traversée du désert, c'est la misère. Il dit
« J'avais plus de copains, plus de sorties, de rapports avec les filles. Je m'étais tourné vers les prostituées à raison d'une fois tous les 2 mois. »
C'est à cette époque que Pierre Chanal commence à s'intéresser à divers jouets, mais surtout à se filmer nu. C'est là qu'il se met à développer ce que les psychiatres appellent dans leur rapport des pathologies mentales qui se résument à des conduites déviantes. Pierre aime se voir nu, s'exhiber et surtout il découvre peu à peu son homosexualité et il en a honte. Il ne s'assume pas du tout et c'est possiblement de là que lui vient la violence qu'il déchaîne contre ses victimes. Il est rongé par cette attirance, c'est une espèce de dualité qu'il a en lui. Se sentir attiré par ces jeunes hommes qu'il prend en stop, Pierre déteste ça et il change complètement de visage quand il commence à abuser d'eux. Par contre, il est écrit que Pierre Chanal ne ressent aucun sentiment de culpabilité, il a juste honte de ce que la société pense de lui, il manifeste une gêne extrême à parler de ses crimes. Les psychiatres le décrivent comme ayant une personnalité obsessionnelle, caractérisée par une tendance au perfectionnisme, une exigence pour que les autres se soumettent à sa propre manière de faire les choses, sans prêter attention aux sentiments provoqués chez autrui par ce type de comportement. On trouve chez lui un sadisme sexuel qui se caractérise par sa capacité à infliger à une autre personne une souffrance psychologique et physique dans le seul but d'obtenir une excitation. Côté mental, Pierre n'est pas décrit comme dément, c'est un homme intelligent qui sait que ce qu'il fait est mal, mais ses pulsions sont plus fortes que lui. Et en dehors de cette perversité, les psychiatres ne le jugent pas dangereux, mais préviennent tout de même, l'incarcération de Pierre lui donne des idées morbides. Alors attention, la justice française, Pierre, on le surveille pour éviter qu'il se torde le cou. Parce que le procès va mettre du temps à venir, vous allez voir. Une justice incompétente. Après la découverte de Palaz à l'arrière du combi Volkswagen de Pierre Chanal, celui-ci est mis en examen pour abus sexuels et séquestration. Il est envoyé en détention. À ce stade, Pierre Chanal n'est accusé de rien d'autre. Le temps que les analyses ADN soient effectuées, que les enquêteurs mis sur son affaire retracent son emploi du temps, ses va-et-vient, trouvent des preuves, il va s'en passer des années. Puisque Pierre Chanal, lorsqu'il est arrêté au volant de son combi Volkswagen avec Palaz à l'arrière, il avoue rien du tout, il ne parle même pas des disparus de Mourmelon, et c'est bien pour ça que l'enquête qui suit l'arrestation de Pierre Chanal va prendre des années pour retracer son parcours. Tel point qu'il va d'abord être jugé pour l'affaire Palaz devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Pierre Chanal est condamné à 10 ans de prison le 23 octobre 1990. Il s'enferme dans le silence et demande à être placé à l'isolement tout au long de sa peine. 3 ans après sa condamnation, la justice se décide enfin à réunir les disparitions de Dubois, Avette, Carvalho, Sergent, Denis et Gache dans un même dossier et décide que le principal suspect dans toute cette affaire est Pierre Chanal, qui d'ailleurs ne dit toujours rien puisque, il a entendu parler des disparus de Mourmelon, mais quasiment tous ont été classés comme déserteurs, donc il comprend pas bien de quoi on l'accuse. Et il a raison.
En 1994, il est également mis en examen pour le meurtre de Trevor O'Keefe.
Mais la justice est lente, tellement lente qu'il a le temps de terminer sa peine de prison et d'être libéré pour bonne conduite en 1995 après 5 ans de détention, malgré l'horreur qu'il a fait vivre à Palaz. Pendant ce temps, les enquêteurs rament et rament puisqu'ils s'efforcent de rechercher où se trouvait Pierre Chanal à la date de chacune des disparitions. Leur tâche n'est pas facilitée par le nombre de ces disparitions ainsi que par leur ancienneté pour la plupart d'entre elles. Mais heureusement, on réussit quand même après des mois de travail à prouver que Pierre était bien dans le coin au moment des disparitions grâce à un chèque, un retrait en espèces, un témoignage. Et ça, c'est le plus important. Pierre est placé en garde à vue mais il n'avoue rien et surtout parle très peu. Il est relâché après 45 heures. Et l'enquête s'embourbe complètement, le travail est titanesque. On arrive plus de 20 ans après la toute première disparition, celle de Patrick Dubois. Comment retrouver la moindre chose le concernant, et concernant d'ailleurs tous ceux disparus dans les années 80. Alors oui, on a bien les ADN de Patrice Denis, Patrick Gache, Pascal Sergent, Trevor O'Keefe dans le combi, mais ils sont en mauvais état. La pression populaire augmente, les médias sont plus que jamais sur le dos de la justice et pointent du doigt le travail judiciaire. Alors, le 10 août 2001, une décision est prise. Oui, Pierre Chanal va être jugé, mais pas pour toutes les disparitions. Concernant Patrick Dubois, Serge Avette, Manuel Carvalho, Pascal Sergent et Olivier Donner, les charges sont abandonnées. L'enquête s'arrête net les concernant. 20 ans après leur disparition, la justice française est incapable de pouvoir prouver à 100% que Pierre Chanal les a fait disparaître et il préfère donc écarter ces disparitions du dossier pour éviter que le doute ne profite à l'accusé. Parce que oui, pour la plupart, on peut de toute façon prouver que Pierre Chanal était dans le coin, mais impossible d'aller plus loin 20 ans après les faits. Et je sais que là, ça vous paraît peut-être brouillon et même un petit peu rapide comme fin d'HVF, mais c'est exactement comme ça en fait que se passe l'enquête après l'arrestation de Pierre Chanal. La justice qui se sent humiliée parce qu'en fait, elle avait un tueur en série dans le coin et
personne ne l'a capté, eh bien, essaie du mieux qu'elle peut de se raccrocher pour pouvoir organiser un procès.
Pierre Chanal sera donc jugé pour les trois meurtres les plus récents, ceux de Patrice Denis, Patrick Gache, Trevor O'Keefe. La date du procès est fixée au 13 mai 2003. Le 12 mai, Pierre Chanal tente de mettre fin à ses jours, mais est sauvé. Il est envoyé en hôpital psychiatrique. Le 5 juillet, il entame une grève de la faim pour clamer son innocence alors qu'il vient d'être incarcéré.
Puisque depuis 1995, Pierre, après avoir purgé sa peine et avoir été libéré pour bonne conduite, il était totalement libre. Vous pouviez parfaitement le croiser à la boulangerie ou en faisant du stop. Mais là, c'était pas conseillé de monter.
Le 14 octobre, le procès de Pierre Chanal s'ouvre enfin. La lecture des faits est réalisée. Tout se met doucement en place en cette première journée. La justice veut prendre le temps de juger Pierre Chanal pour réussir à convaincre qu'il est bien le tueur de Mourmelon. Le 15 octobre, Pierre s'enlève la vie à l'aide d'une lame de rasoir dans sa chambre. Il meurt en 10 minutes. En France, il est impossible de juger un mort. Le procès s'arrête net. Le dossier est scellé. Il n'y aura jamais officiellement de coupable dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Le 25 janvier 2005, suite à une action en justice portée par les familles des victimes, l'État français est condamné pour faute lourde. Le jugement condamne, je cite, « l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission car une série de fautes commises par les enquêteurs ont ralenti l'instruction des différentes affaires de disparition inquiétantes et ont conduit à ce que demeurent inconnues les circonstances de l'enlèvement et du décès de plusieurs victimes ». À ce jour, les corps de Patrick Dubois, Serge Avette, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Patrice Denis, Patrick et Gache n'ont toujours pas été retrouvés. La justice ne voulant toujours pas mettre en place des moyens financiers et humains pour fouiller les puits de Mourmelon. Suite à mes recherches, j'ai aussi découvert qu'une dizaine d'autres disparitions avaient eu lieu dans les alentours de Mourmelon au moment où Pierre en avait fait son terrain de chasse. Ils sont surnommés les victimes oubliées de Pierre Chanal. Malheureusement, 40 ans ont passé depuis les années 80. Impossible de relancer quoi que ce soit aujourd'hui. Yvonne, la maman de Patrick Dubois, le premier disparu, est décédée en 1996 à l'âge de 61 ans seulement, anéantie par la disparition de son fils. Raymond Dubois, le mari explique que la nuit, sa femme se mettait à hurler et à supplier pour qu'on trouve le corps de son fils pour que, je cite, « elle puisse mettre une fleur ». Serge Avette n'a jamais connu sa petite fille qui aujourd'hui doit être au début de sa quarantaine. L'affaire des disparus de Mourmelon se termine ainsi, avec une justice humiliée, incompétente et 8 affaires de disparition qui ne seront jamais jugées.
Si vous avez regardé StageVev jusqu'au bout, mettez humiliation en commentaire, puisque je pense que dans cette affaire, la justice française a complètement été humiliée. Tout est ridicule dans ce dossier, rien n'a été pris au sérieux. Et je veux dire, quand j'ai vu que Pierre Chanal avait été arrêté par hasard, moi je m'attendais à pouvoir vous raconter une énorme enquête, la traque d'un tueur en série français, mais non. Tout est humiliation sur humiliation sur humiliation dans cette affaire et au final, aucune famille des victimes n'a jamais eu de réponse. Bref, c'est Max Guys, j'espère que je pourrai voir certains d'entre vous au Quai du Polar du vendredi 5 au dimanche 7 avril. Oui, parce qu'on est en mars, du coup c'est en avril, je suis en train de réfléchir, mais je me suis pas trompé. C'est, je le répète, un événement gratuit, je vous mets tout dans le commentaire épinglé. On se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve également sur Twitter, Instagram, tout ça vous avez l'habitude. Et puis, bye!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.